radyo yaptık, açık radyo yaptık, değil mi?
Sanat bir yerde görünmezi dışarıya çıkarmak için bir uğraştı.
Birdir peygamber hak, Rabbil alemin mutlak.
Tamam anne, ben diyeyim.
Senlik, benlik nedir bırak, söyleyeyim geldi sırası. Kürdü, türkü, neşerkezi, babademin oğlu kızı.
Tu veux être heureux, voyage avec deux sacs, l'un pour donner, l'autre pour recevoir, disait le poète Goethe. Dans le cadre d'Istanbul à facettes, festival d'images, de sons et de villes entre Marseille et Istanbul, voici Carnet de voyage, une émission en direct et en public depuis le cinéma L'Alhambra. Carnet de voyage pour relever les traces de quelques parcours de voyageurs ayant un peu, beaucoup, passionnément voyagé entre Istanbul et Marseille. Sur ce plateau, pour révéler les traces et tracés, raconter leur cheminement, quelques voyageurs donc. Johan Lamouler, photographe, et Jérémy Garniaud, géographe et cartographe. On évoquera avec eux leur vision d'Istanbul à travers un ensemble de propositions présentées dans le cadre d'Istanbul à facettes, une exposition de photographies, des cartes, des textes, un film et un titre qui en dit long, belle peut-être pas, mais ô combien charmante. Donner et recevoir, aller et retour, Uzay Uzun, qui est étudiante à Istanbul, à l'université de Galatasaray, a croisé Radiolab, la web radio étudiante de Grenouille, pour un atelier de pratique radiophonique. C'était en novembre 2010 et puis en février dernier. Elle est à Marseille avec Tabitha, qui est étudiante elle aussi. Elle est à Marseille donc depuis quelques jours et pourra nous dire ce qui l'aura marqué au cours de ce court séjour. Elle est accompagnée de Lucie Palanque, qui, entre autres casquettes grenouillesques, participe à la mise en œuvre de Radiolab. Je ne sais pas si les voyages forment la jeunesse, en tout cas ils l'informent, ils ouvrent les yeux sur le monde et donnent envie d'aller vers l'autre. Un groupe d'élèves de l'atelier cinéma du lycée Saint-Exupéry a tout récemment franchi le pas et passé quelques jours à Istanbul. Ils ont ramené avec eux des vidéos dans lesquelles ils donnent trace de leur moment magique dans la méga boule à facettes qu'est Istanbul. On reçoit sur ce plateau Marius Rambaud, qui est lycéen. Il est accompagné de William Benedetto, directeur du cinéma L'Alhambra. Enfin, quatrième récit dans ce carnet de voyage, un récit en images de Catherine Iso, photographe, auteur, qui depuis 10 ans ou plus réitère à Istanbul une déclaration d'amour aussi vibrante que pudique. Carnet curieux, c'est une exposition présentée à l'Alhambra pour Istanbul à facettes. C'est aussi un livre qui est édité chez Le Bec en l'air. Et c'est tout à l'heure quelques mots sur les hors-champs de ces images. Et histoire de se mettre en train ou en avion, après tout on voyage comme on peut, histoire en tout cas de se mettre dans l'ambiance, on écoute pour commencer Abbas Aha Park, c'est Baba Zula. Thank you. Antoine Lamoulaire et Jérémy Gardiot, respectivement photographe et géographe, ont arpenté Istanbul, accompagnés de quelques complices. Jérémy, Johan, vous êtes parti avec qui en fait, et puis dans quel état d'esprit?
Jérémy Gardiot. Bonjour d'abord, bonjour Xavier, bonjour tout le monde. On est parti en août 2010 avec l'association Géographique, donc qui l'a bien nommée puisque c'est une association qu'on a fondée en tant qu'étudiants ou anciens étudiants de géographie. Et on a invité Johan à partir avec nous. Ça s'est fait un peu comme ça au feeling sur le moment. L'idée de partir une petite quinzaine de jours à Istanbul avec en tête beaucoup de questionnements sur Marseille 2013, capitale européenne de la culture. Et sachant qu'Istanbul était capitale européenne de la culture en 2010, on voulait partir voir là-bas comment se passait la relation entre une capitale européenne de la culture et puis tout le chantier permanent dans une ville de rénovation urbaine, tous les chantiers urbains, et voir dans quelle mesure les choses étaient liées pour... peut-être pas comprendre là-bas ce qui pourrait, enfin voir là-bas ce qui pourrait nous aider à comprendre ici, mais avoir des pistes. Et puis donc une quinzaine de jours en août 2010.
Et avec des complices?
Avec des complices bien sûr, parce qu'on est parti avec le soutien de, enfin disons la complicité de Radio Grenouille, avec sur place aussi, puisque c'était un temps très court, on a beaucoup de gens qu'on a rencontré soit en suivant des fils une fois qu'on était sur place, soit comme la personne qui nous a accueillis, Ulus Atayurt, qui est journaliste à Istanbul, qui nous avait proposé très généreusement, avant d'arriver à Istanbul, de nous héberger à 5 chez lui, donc côté asiatique à Kadıköy, à Bostancı. Et qui était en plus, au vu des thématiques qu'on voulait développer là-bas, qui était un puits de science, voilà.
Pour l'avoir rencontré aussi, effectivement, son réseau est incroyablement étendu et il s'étend même jusqu'à Marseille, ici, avec de nombreux contacts. Peut-être sur les raisons de la diversité d'approches, j'entends par diversité la diversité de supports sur lesquels vous proposez aujourd'hui ce regard sur Istanbul.
Oui, oui. Alors, on est parti donc sur les 5 personnes qui sont parties. On avait des compétences assez différentes puisqu'il y avait 3 géographes, mais il y avait aussi Marie qui travaillait en master de médiation culturelle et qui donc avait des compétences sur tout ce qui était prise de son, prise de vue, et qui a eu ce regard là Johan qui est photographe, et on est parti avec l'idée de récolter de la matière sous différents médias, comme tu disais, donc de la vidéo en menant des entretiens filmés et de la prise de son, soit simultanée à la vidéo pour le travailler en même temps, soit de façon indépendante, le travail photographique de Johan et un travail d'écriture basé aussi sur les entretiens et puis sur la découverte de la ville.
Et un travail cartographique aussi.
Ouais.
Et puis des formes qui parfois s'hybrident un peu les unes les autres, se rejoignent, dialoguent entre elles.
Oui, alors c'est par exemple le cas de l'exposition qu'on présente à l'Alhambra. L'idée, c'était non pas de ramener une matière qu'on allait travailler de façon uniforme et puis en faire un gros rendu définitif qui serait soit un documentaire, soit quelque chose d'unique, mais c'était d'avoir suffisamment de matière pour pouvoir avoir des occasions de débat autour de cette matière-là, comme par exemple ce qu'on présente à l'Alhambra. C'était dans ce cadre-là d'Istanbul à facettes, c'était un cadre vraiment intéressant pour proposer donc autour d'un travail, d'une exposition photographique, cartographique et de texte, quelques premières pistes de discussion et d'interrogation autour, là pour le coup, de Istanbul et Marseille. Marseille, c'est encore une autre histoire, mais le fait de le lier ici, ça faisait du sens puisque Marseille 2013, Istanbul 2010. Voilà, autour des thématiques de culture, développement urbain, marketing urbain, rénovation des quartiers.
Johan, est-ce que ça change les choses quand on voyage à plusieurs par rapport à un voyage en solitaire?
Ouais, il y a un côté insupportable, un côté le groupe, quoi, avec le parapluie, on suit. Donc justement, on a voulu éviter ça, on s'est séparés, on a fait des petits groupes. Donc moi, après, comme je me perds toute seule, il faut vite que je téléphone ou que je me rapproche d'un géographe pour pouvoir avancer. Donc voilà, il y a des bénéfices, des inconvénients qui sont aussi évidents.
Alors, Jérémy, à l'instant, évoquait ce regard sur le territoire, sur les mutations urbanistiques d'Istanbul. Comment est-ce que toi, tu les voyais dans l'objectif de ton appareil, ce territoire? Il se manifestait d'abord par les lieux, par les endroits, ou bien par des portraits, par des personnes?
Ben, les deux. Dans mon boulot photo, j'essaye toujours de faire les deux. Après, on les cherchait beaucoup. Donc... Les deux, en discutant avec les gens et en regardant le paysage autour de nous, les deux. Ouais.
Avec un choix d'un format un peu particulier, un format carré pour toutes ces images. Peut-être deux mots sur vraiment les choix un peu esthétiques, on pourrait dire, de tes images.
Alors, ce n'est pas un choix esthétique, ce n'est pas un choix de format, c'est un choix de posture. En fait, l'appareil photo avec lequel je bosse, c'est un relais flex. Et ça me permet de me tenir droit face aux gens. Et d'avoir le regard libéré, c'est-à-dire de pas avoir un appareil devant le visage. Et voilà, c'est un appareil que j'aime bien pour ça. C'est pas forcément un choix de format, mais plus un choix de posture.
Dans ces réflexions sur le territoire, ces mutations et les pratiques urbanistiques parfois très, très étranges, très opaques à Istanbul, j'imagine que vous vous êtes beaucoup intéressé au processus de gentrification, notamment à l'occasion de la capitale culturelle. C'était un questionnement pour vous, Jérémy?
Oui, évidemment, parce que Istanbul est une ville qui connaît déjà des processus de gentrification depuis de nombreuses années. Après, il y a tout un pan qu'on n'a pas eu l'occasion d'explorer, mais qui, je pense, est très intéressant aussi. C'est ce qui se passe en périphérie d'Istanbul et ce qui se passe en périphérie de Marseille. C'est-à-dire la gentrification, on en parle souvent en évoquant le centre-ville et donc l'enrichissement, l'embourgeoisement des quartiers riches avec l'éviction des populations pauvres qui habitaient là depuis de nombreuses années. Et peut-être en deux mots, ce qui se passe à Istanbul, ce qu'on en a perçu, c'est une action gouvernementale, donc du gouvernement central de Turquie, à travers un organisme qui s'appelle TOKİ, et c'est la volonté de reconstruire un centre historique sur une image fantasmée d'un passé ottoman, mais surtout du logement, là où on a des quartiers, comment dire, la péninsule historique d'Istanbul est Eminönü et tous les endroits où on trouve Sainte-Sophie, Hasan-Pasha, c'est des quartiers qui sont encore fréquentés et qui ont des usages courants, qui sont pas uniquement touristiques, même s'ils sont très très touristiques. Et ce qui est en train de se passer, disons que c'est un stade où on voit des choses disparaître.
Il y a une homogénéisation de ces quartiers. Autrefois, il y avait à la fois des lieux touristiques et puis en même temps des lieux de vie, y compris des lieux de vie un peu pauvres. Et on a l'impression que tout s'homogénéise pour être uniquement dévolu au tourisme, c'est ça?
Alors après, sur ce qui est intéressant, enfin ce qui était marquant quand on parle de gentrification, en France, il y a une espèce de pudeur vis-à-vis de la gentrification. C'est pas bien, c'est pas social, c'est pas... Donc on n'en parle pas et quand on le fait, on essaie de le cacher. Il y a énormément de pays où ça se fait de façon complètement assumée. Et Istanbul, c'est le cas quand on se promène dans les rues de Süleymaniye, qui est un quartier justement dans la péninsule historique, qui est un quartier qui aujourd'hui remplit trois fonctions essentielles. C'est là où sont installés les chiffonniers, donc ceux qui parcourent toute la ville en ramassant du tri et puis avec des énormes sacs sur le dos. C'est donc des populations très pauvres. C'est également là où il y a énormément de parking et toute une mafia qui gère le stationnement en centre-ville. Et c'est un quartier de logement de migrants ruraux, de zones rurales de la Turquie, d'hommes seuls. Voilà. Mais juste pour finir, c'est en train de changer vers quelque chose d'un peu plus hype, avec l'apparition de cafés comme le café Halic. Et on a vraiment des zones où, d'un côté de la rue, on a trois façades rénovées avec quasiment des petites affichettes posées dessus, les bienfaits de la gentrification à Istanbul. Le café Halic, dans lequel le patron se vante d'accueillir le maire et les personnalités de la ville. Et en face, les chiffonniers. Voilà.
Du centre à la périphérie, tu évoquais tout à l'heure les activités de TOKİ, grand bâtisseur de tours dans les périphéries d'Istanbul, et tu évoquais que ces nouveaux ensembles urbains étaient bâtis sur une espèce d'image fantasmée issue du passé ottoman de la ville. Est-ce que tu as l'impression que ça correspond à une espèce de volonté politique aujourd'hui du parti qui est au pouvoir en Turquie, qui s'appelle l'AKP, de jouer un petit peu la carte d'un néo-ottomanisme?
Oui, clairement. Je pense que L'électorat de la CAP, c'est essentiellement des classes moyennes, de confession musulmane, mais c'est intéressant parce que quand on en parle à Istanbul, c'est quelque chose qui est beaucoup moins tranché et puis significatif qu'ici. Donc on peut en parler, on peut et on nous en a parlé souvent de l'AKP comme d'un parti islamiste néolibéral, donc avec une position un peu qu'on voit pas ici. Et c'est ça qui est proposé, c'est cette espèce de néo-ottomanisme pour créer ou recréer une identité, un peu une identité nationale sur quelque chose qui a pas vraiment existé, puisque ça a été recréé déjà à travers les âges.
Johan, l'idée ou peut-être le prétexte, c'était donc d'interroger les capitales culturelles. Est-ce que tu as l'impression que ce voyage à Istanbul a révélé quelque chose pour toi à propos de Marseille?
C'est une question difficile.
Et de son futur proche.
Ouais, je pense que ça nous a aidé. Je pense que déjà voyager, partir de chez soi et prendre du recul, ça aide toujours à réfléchir. Donc rien que pour ça, je pense que ça nous a donné des pistes. Et puis on y pense, on y réfléchit complètement différemment parce que voilà, on discute avec des gens qui sont dans une autre situation. Est-ce que ça nous a donné des réponses exactes sur ce qui va se passer à Marseille? Non, bien sûr que non. Après, c'est vrai que moi, comme j'habite dans les quartiers nord de Marseille, j'ai aussi cherché à sortir du centre-ville et à voir comment ça pouvait se passer. J'ai longtemps cherché la banlieue à Istanbul, je ne l'ai jamais trouvée. Donc voilà, ça nous a permis de réfléchir sur pas mal de choses. Ouais.
Alors, ce qu'Istanbul révèle peut-être de Marseille, rien n'est très sûr. Peut-être maintenant, ce que Marseille révèle d'Istanbul, qu'est-ce qui est peut-être commun à ces deux villes? Eh bien, Uzay, tu es avec nous. Je rappelle que tu es étudiante à Istanbul. Tu as participé au mois de novembre et au mois de février, je crois, à deux workshops qui étaient proposés par Radiolab. Tu es à Marseille depuis quelques jours. Est-ce qu'il te semble qu'il y a des points, malgré leurs grandes différences de taille, de population, etc., est-ce qu'il te semble qu'il y a des points communs entre ces deux villes?
En fait, oui, bien sûr, il y a des points communs et il y a des points différents. Hier, on était avec Lucie. On a vu qu'il y a beaucoup d'embouteillages, comme Istanbul. Oui, c'est vrai. Et les gens sont... on vit dans la Méditerranée. C'est le côté méditerranéen de Turquie, en fait. Voilà, les gens sont beaucoup plus chauds, disons, pas comme en Angleterre. Peut-être c'est un stéréotype, mais disons, on se ressemble beaucoup. Et Marseille, c'est une ville très grande. Je trouve que c'est grand, pas comme Istanbul. Tu as dit que je peux trouver un banlieue à Istanbul. Oui, c'est vrai. Par rapport à Marseille... Istanbul, c'est beaucoup plus grand. En fait, il y a 20 millions de gens. Et ici, il y a 1 million de gens. Alors, c'est difficile à trouver les points communs sur les places, sur le nombre, tout ça.
Bon, une certitude, c'est qu'à Marseille, il pleut un tout petit peu moins qu'à Istanbul. Ça, c'est quasiment une certitude. Peut-être, Lucie Palanque, deux mots sur la manière dont ces ateliers, ces workshops ont été menés.
Oui, alors on a voulu, dans le cadre de Soundshift, proposer aussi une rencontre avec des étudiants là-bas, parce qu'on travaille à Marseille, avec des étudiants. Et donc aller vers eux et leur proposer des ateliers de pratique. Le premier, sur deux jours, consistait à leur proposer de réaliser un autoportrait en sonore en 2 minutes, qui dure 2 minutes au maximum. Parce que, comme première approche... du travail du son, c'est quelque chose qui est peut-être plus intéressant parce qu'on s'adresse à des personnes. En fait, dans ces ateliers, une des choses les plus importantes, c'est les personnes qu'on rencontre et qu'est-ce qu'on fait avec elles et comment on engage un dialogue là-dessus et sur une matière qui n'est pas forcément commune, c'est-à-dire la façon de faire la radio, en tout cas de l'écouter. À Radio Grenouille, avec les gens qu'on a rencontrés à Istanbul, c'est pas du tout la même. Mais en fait, très vite, en proposant des outils très simples comme un enregistreur, un casque et un ordinateur, on se rend compte que les étudiantes là-bas, je dis étudiantes parce que la majorité étaient des filles, arrivent à se saisir de ces outils-là, même si elles n'ont pas une pratique radiophonique et sonore très développée.
Vous avez peut-être... À l'instant, Lucie disait que l'essentiel des participants à ces workshops étaient en fait des participantes. Pourquoi les filles sont plus intéressées à avoir des activités et les garçons y jouent au foot? Quelle raison tu pourrais donner à ça?
En fait, je ne sais pas. Alors, j'étais surpris par... Il n'y a pas beaucoup de gens qui veulent participer au workshop. Ça m'a surpris parce que dans une université comme l'université de Galatasaray, qui est très connue, qui est vraiment prestigieuse, j'étais bon. On était 3 ou 4 personnes et nous étions tous les filles. Et je pense que oui, les garçons ont des choses plus importantes que ça, comme foot.
Ben voyons.
Peut-être... C'est une ironie.
Oui, j'ai compris, bien sûr. Peut-être 2 mots sur la vie estudiantine, justement, à Galatasaray. Est-ce qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup de workshops, beaucoup d'ateliers en dehors des cours? Il y a beaucoup de possibilités de se rencontrer, de travailler ensemble en dehors des cours?
Je précise juste avant que Ouzaï, en fait, n'est pas encore étudiante. Elle est juste lycéenne, malgré les apparences. Mais tu connais peut-être la vie étudiante. En fait, en tout cas, en rencontrant l'université de Galatasaray, qui est juste pour préciser le cadre au bord du Bosphore, dans des bâtiments absolument somptueux, enfin, en tout cas, beaucoup plus que ce qu'on peut connaître ici. J'ai trouvé que, enfin, dans le petit aperçu qu'on en a eu, la vie étudiante n'était pas forcément très vivante, en tout cas difficile d'accès. Même si le cadre quand même est incroyable, parce que prendre son petit sandwich à la fin des cours au bord du Bosphore avec un paysage, peut-être que c'est ça en fait les activités des étudiants, je sais pas.
Je pense que les gens ne veulent pas participer parce que le système éducatif turc, c'est très difficile.
Est-ce qu'on peut dire qu'il est sévère?
Oui, bien sûr, oui. Je suis sûre que c'est sévère et on passe les concours. Par exemple, moi, je suis un peu plus libre parce que j'ai participé, je suis là, je fais d'absence d'école, mais personne ne le fait. À Istanbul, on a beaucoup de travail, c'est très dur à faire, il faut travailler beaucoup. Et les gens qui ont participé au workshop disaient que ah, demain, je ne vais pas venir parce que j'ai des choses à faire. Je pense que c'est l'handicap du système éducatif turc, que les gens ne veulent pas participer des workshops, des ateliers, tout ça.
Alors, vous nous avez apporté un petit extrait sonore du travail réalisé dans ces workshops. Je crois qu'il s'agit d'un élément de débat mis en onde. Peut-être, on parlait tout à l'heure des garçons qui jouent au foot et des filles qui participent aux activités. Là, justement, c'est un débat sur la condition féminine. Juste avant d'écouter le son, pourquoi vous avez choisi ce sujet?
Le sujet était les femmes à Istanbul. Et on a fait quelque chose un peu fort sur le problème. On a parlé sur le problème parce que souvent, on parle de Bosphore et de kebab à Istanbul. Et les femmes à Istanbul, ce n'est pas du kebab. On a des problèmes, on a beaucoup de choses à montrer aux gens. On veut montrer en fait qu'il y a beaucoup de problèmes à Istanbul, au monde. Et on veut dire qu'on crie et personne ne peut pas nous empêcher de dire les vérités.
On l'écoute, on en reparle juste après.
5e lundi de Maria. Günahım büyük.
Ben hiç günah yapmadım. Hiç günah yapmadım.
On n'est pas la femme, on la devient, dit Simone de Beauvoir. Mais comment? Qui nous a donné la forme d'une femme? Dans quel genre de monde nous sommes devenus la femme?
La femme, 2 points. Elle fait du ménage, elle fait de cuisine, elle garde ses enfants, elle satisfait son mari. Elle doit se taire malgré les trompées. Voilà, vous êtes femme si vous le faites.
Combien d'insultes on a dû accepter qu'on ne peut pas traduire en aucune langue?
Adam gibi adam ol, karı gibi kırıtma, erkek gibi kadın, kız gibi korkma. Kadın aklınla bana akıl verme. Elinin hamuruyla her işe bulaşma.
Que signifie-t-il alors pour les hommes, pour vous? Seulement un truc sanglant? Ou bien une prostituée? Une poule? Une mère, soeur, fille? Sinon, tout à la fois. On est qui, quoi, pour vous, pour le monde?
On était les moyens qui servent à donner naissance aux fils des hommes honnêtes qui aiment être les gardeurs de l'honneur des femmes. Au lieu de pleurer, au lieu de porter le deuil, c'était encore nous qui devions être honorés par la mort de nos enfants, nos frères et nos amis. Nous sommes Berivan qui est assassinée parce qu'elle n'aimait pas l'homme que sa famille a choisi pour elle.
Nous sommes Gristan qui était puni par la mort parce qu'elle ne pouvait pas donner un fils à son mari.
Nous sommes la petite Ceylan qui est morte par des plombes d'un soldat qui faisait un exercice militaire.
Nous sommes les femmes qui attendent un permis pour pouvoir travailler légalement comme prostituées, pour sauver son fils malade. Avec le gouvernement qui change, la femme idéale change aussi. Il était un temps où le portrait idéal était une femme qui portait une jupe courte, qui se maquillait et qui ne portait pas de voile. Maintenant, c'est totalement le contraire. Parfois, nous ne comprenons pas les uns les autres, mais en général,
les autres
qui font pas attention à nous. On voulait avoir
des cheveux jaunes.
Tout de suite, on était étiquetés comme des femmes stupides détraînées. Every baby needs a dad, dad, daddy to keep her worry free. Every baby needs a dad, dad, daddy, but where's the one for me?
Entrer dans le monde du travail et les gens ne tardent pas à penser qu'une femme ne peut pas devenir un PDG sans être baisée par son patron. Nos cris, nos luttes et nos douleurs n'ont jamais été prises en considération. On crie partout. Vous voulez que l'on se tasse. Mais malgré tout, on ne fera pas ce que vous voulez. À partir de maintenant, l'homme ne sera pas la bourgeoisie dans la maison.
Carnet de voyage, une émission en direct et en public depuis l'Alhambra Ciné Marseille dans le cadre du festival Istanbul à Facettes. On vient d'écouter un son réalisé dans le cadre d'un atelier proposé par Radiolab à Istanbul. Lucie Palanque, sur les conditions de réalisation de ces ateliers, ce son par exemple, il a été réalisé en combien de temps?
Je vais demander à celle qui l'a réalisé.
Alors, Ozaï.
En fait, on avait deux jours de travail et premier jour, on a travaillé sur ce qu'on va faire, on a pris des sons, on a cherché sur l'internet, tout ça. Et deuxième jour, on avait un tout petit temps pour faire le montage parce qu'on avait l'émission à faire. Il faudrait voir le temps, les minutes, combien de temps ça va durer, tout ça. Et en fait, on avait un petit peu de temps pour se réaliser et on a fait ce qu'on peut faire. Et voilà.
Alors tout à l'heure, on a entendu que vous aviez réalisé des autoportraits, une manière de se présenter, de focaliser d'abord le travail sur l'humain, mais peut-être pour conclure, est-ce que tu penses qu'on peut faire le portrait d'une ville?
Pourquoi pas? Si tout le monde est capable, je pense. Tout le monde a une vision de vie, tout le monde a une vision de voir la ville, par exemple Istanbul. Moi, j'ai une vision de voir la ville Istanbul, je peux faire un autoportrait pour moi-même, peut-être pas pour tout le monde, mais tout le monde peut comprendre en fait.
Et est-ce que tu aurais envie, toi, d'entreprendre un portrait d'Istanbul, peut-être un portrait sonore?
Pourquoi pas si vous m'aidez.
Ça, volontiers. Rendez-vous est pris si de prochains ateliers ont lieu. J'espère que ça sera le cas. Merci beaucoup à Ouzaï. Et on va maintenant passer du son à l'image. Et son et image sont diablement complémentaire dans Istanbul à facettes, avec des carnets de voyage en forme de correspondance pour les lycéens de l'atelier cinéma du lycée Saint-Exupéry. Alors un voyage comme ça, ça se prépare certainement. C'est un an, je crois, d'échange et de travail. Alors sur le contexte de préparation justement de ce travail, William Benedetto.
Oui, bonjour. Alors effectivement, le volet échange, correspondance entre lycéens s'est mis en place il y a un petit peu plus d'un an. D'emblée, c'était l'idée que ici, à l'Alhambra, on a un partenariat assez fort donc avec le lycée Saint-Exupéry, le lycée Nord, pour travailler la question du cinéma avec des élèves qui vont avoir une épreuve cinéma au bac. Qui est souvent assez déterminante. Et c'est vrai que voilà, étant embarqué dans cette aventure avec Istanbul, ça semblait évident qu'il fallait essayer de raccrocher ce wagon du travail avec les lycéens. Et tout de suite, l'idée, c'était essayer de trouver un lycée là-bas et de construire un échange. Donc, le temps nécessaire pour aller voir les gens, les rencontrer, voir dans quelles conditions on pouvait réaliser ça, et puis tout de suite mettre en place un volet cinéma. Et il ne s'agissait pas que de permettre un voyage, même si un voyage à Istanbul, c'est déjà quelque chose de fort et d'important. Et donc moi j'ai rencontré des gens là-bas et des réseaux d'un réseau de lycées français privés. Et il s'est avéré que c'est avec le lycée Saint-Michel que des choses ont pu se mettre en place. Et ce qui est assez formidable quand on travaille avec des partenaires à Istanbul, c'est qu'il y a un côté accélération des choses rapide. Enfin, ça va très très vite une fois que les contacts sont noués, que les engagements sont pris. Ben derrière, ça assure. Et du coup, le voyage qu'ont vécu les 13 lycéens de première il y a 15 jours maintenant, ils sont revenus il y a 15 jours, je crois qu'il s'est passé dans de superbes conditions. Ils ont été hébergés dans les familles, accompagnés par leur professeur de cinéma et notre intervenant cinéma Jean-Michel Pérez. Et je pense que c'était important d'avoir ce volet-là, il me semble, par rapport à ce qu'on fait ici toute l'année, et de pouvoir ramasser effectivement leur regard un peu neuf sur la ville.
Alors on a avec nous un de ces lycéens, Marius Rambeau. Bonjour Marius.
Bonjour.
Alors on a évoqué ce travail de correspondance, de relation pendant un an avec des correspondants, puis une quinzaine de jours de visite à Istanbul, où là tu as vécu avec des étudiants, des lycéens comme toi. Est-ce qu'ils te ressemblent ?
Les correspondants ?
Ouais.
Oui, les correspondants, ils sont comme nous, un ou deux ans de plus. Mais ils sont libres dans leur tête, ils sont vraiment accueillants. Nous étions vus comme l'invité de Dieu, c'est ça que mon correspondant m'a dit. Il m'a dit, vous êtes l'invité de Dieu. Donc ils sont très, très sympathiques, très accueillants, ils sont free.
Alors je vais peut-être mettre un peu le pavé dans la mare, mais tout à l'heure, William Benedetto disait que les contacts, c'était des lycées francophones. Alors, il se trouve que les lycées francophones sont souvent des lycées privés. Et il faut dire une chose quand même, c'est qu'à Istanbul, ces lycées privés, ils sont souvent dévolus aux privilégiés. Est-ce que tu as ressenti ça, toi ?
Pas forcément. Forcément, enfin, les correspondants, ils étaient d'une certaine classe sociale. Ils avaient forcément, les parents avaient un certain revenu, mais sinon, ça se sentait pas vraiment que c'était une classe à part, une classe au-dessus.
En tout cas, ça n'a pas fait de clash entre les Marseillais qui arrivaient. Et puis,
non, pas du tout.
Bon,
au contraire. Au contraire.
Alors, j'ai tout à l'heure regardé quelques-uns des films que vous avez réalisés. Je crois que vous avez ramassé quelque chose comme une dizaine d'heures de rush au total, c'est ça ?
Peut-être pas 10 heures, je dirais 5-8 heures, ouais, à peu près.
Eh, c'est déjà beaucoup.
Là, c'est énorme. En fait, partout où on allait, on filmait, on ne s'arrêtait plus. La pression était grande. Les professeurs, ils nous disaient « il faut filmer ça », on ne s'arrêtait plus. C'était...
Et est-ce que parfois, vous disiez « nous, on a envie de filmer là et pas là »
En fait, pour la plupart des élèves, on préférait vivre le truc que le filmer. Donc, on n'a jamais dit « on veut filmer ça ». S'il y avait un élève qui était bien dedans, c'était pas moi. Mais et lui, il a voulu tout filmer.
Dans ces films, on reconnaît des images de différents quartiers d'Istanbul. On voit des images des Minenus. J'ai cru reconnaître des images de Kadıköy. Vous vous êtes baladé des deux côtés d'Istanbul. Je veux dire par là du côté européen et du côté asiatique de la ville.
C'est ça, oui. Côté européen, côté asiatique. On a passé plus de temps sur le côté européen parce que c'est là qu'on habitait tous, en fait. Mais je peux dire qu'on a assez marché. Même si on n'a pas vu toute la ville, on a voulu une ou deux fois aller sur le côté asiatique. Il y a une fois, ça n'a pas été possible parce que le président arrive à Istanbul, donc il n'y avait plus de bateaux. Voilà, une bonne organisation. Et oui, on est allé du côté asiatique et tout ça, mais pour les noms des places, je ne pourrais pas vous dire.
Mais est-ce que tu as eu l'impression que ces deux rives, elles étaient très différentes l'une de l'autre, entre le côté européen et le côté asiatique ?
Non. Apparemment, j'entends dire que c'est différent, mais j'ai pas vu tellement de différence, non. Les gens, c'est les mêmes, voilà.
Sur la question de la langue, vous parliez, j'imagine, en français avec vos correspondants qui sont dans un lycée francophone, mais est-ce que vous avez essayé d'apprendre deux, trois mots de turc au passage ?
Oui, moi, c'est bon, je sais parler turc.
Alors, vas-y.
Je peux dire « Seni seviyorum aşkum »,« Je t'aime mon amour », voilà.
Parce ça, c'est, que ça c'est très utile.
Voilà, c'est très, très utile. Je sais dire combien ça coûte. Nekadar, c'était suffisant pour vivre, pour se faire un harem et acheter. Voilà, c'était suffisant.
Ben d'accord, voilà, c'est tout simple, hein, la vie.
On ne sait pas ce qu'on génère. Hein. On se dit, on va faire un simple échange et puis voilà, ça s'engouffre et hop. Voilà.
Dans quoi tu as entraîné ces pauvres enfants, William ?
Je ne veux pas savoir.
Peut-être sur les images que tu gardes, les traces que tu gardes, Marius, de ce voyage à Istanbul, quelle a été pour toi la première sensation de cette ville, première image, premier son, première sensation que tu as éprouvée dans la ville en arrivant ?
En arrivant, il pleuvait, donc forcément j'étais déçu. Première impression, les correspondants ils nous ont très bien accueillis dès le début. Donc dès qu'on est arrivé dans la ville, on a eu la notion de... Voilà, qu'Istanbul, c'est une ville qui fourmille, il y a de l'action partout, ça crie à tous les coins de rue. Les gens étaient chaleureux, c'est ça ma première impression. Et aussi le mauvais temps, voilà.
Et maintenant, quand tu fermes les yeux et que tu penses à Istanbul, qu'est-ce que tu vois ?
Je vois toutes les filles turques que j'ai laissées sur place sans moi.
Bah t'as pas payé assez cher, hein, peut-être.
Je sais pas. Mais je les retrouverai, je reviendrai.
Elles t'attendent avec impatience. Et nous, ce qu'on attend avec impatience, c'est que tu nous fasses écouter un extrait de la bande-son d'un de ces films que tu as réalisé. Peut-être on l'écoute tout de suite et puis on en parle juste après.
Je veux une caméra. C'est la une.
Non, c'est la cuisine.
Voyage sur les 3-8 en direct depuis l'Alhambra pour Istanbul à Facette. Alors Marius, qu'est-ce qu'on a entendu là dans ce son? Où est-ce qu'on était? Quels sont les sons qu'on a entendus là?
Alors tout d'abord, nous avons entendu l'appel à la prière qui se fait, je pense, qui se fait 3 fois par jour. Donc celui-là, on l'a entendu dans l'après-midi. En fait, à chaque fois qu'on entendait l'appel à la prière, il fallait vite filmer pour capturer le son, pour pouvoir le mettre dans nos films, parce que c'est une caractéristique de la ville. À Marseille, par exemple, on l'entend pas, ça nous a surpris. En plein milieu de l'après-midi, quelqu'un qui lance son appel à la prière. Donc là, on était aux environs de Sainte-Sophie lors de cet appel. Ensuite, on entend le bruit des mouettes. Donc ça, c'est forcément sur le bateau quand on allait sur la rive asiatique. Il y a un homme qui chante sur la fin. Ça, c'était à la rive asiatique, dans la rue. Grâce à nos encouragements, il s'est mis à chanter. Il ne s'arrêtait plus.
Les gens étaient plutôt familiers, ils venaient vers vous, ils ne vous fuyaient pas en fait quand vous étiez en train de filmer.
Ah non, pas du tout. Enfin, les touristes, oui, ils nous fuyaient, ils voyaient des caméras, ils ne voulaient pas apparaître sur les images et tout ça. Mais les Turcs, non, parce que pour les Turcs, bon, ils nous voyaient avec nos caméras, donc forcément on est des touristes, donc forcément on a des sous, donc ça les attire.
D'accord. Est-ce que tu, du coup, à l'issue de ce premier voyage, tu aurais envie de retourner à Istanbul, de remettre ça?
Ah oui, mais cet été j'y reviens, ça y est, j'y retourne, je vais réserver mon billet, c'est obligé, c'est super, ça change.
Elles t'attendent, Marius.
Voilà, elles m'attendent.
Merci beaucoup à toi. On va continuer cette exploration de carnet de voyage, une autre manière, un autre regard posé sur cette ville maintenant, avec Carnet Curieux. C'est une proposition de Catherine Izzo. C'est une exposition de photographie qui est présentée ici à l'Alhambra Ciné Marseille. C'est aussi un livre qui est édité chez Le Bec en l'air. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Peut-être quelques mots sur ces images. On voit beaucoup d'Istanbul en cliché, même parfois en chromo, vraiment en cliché abusif et abusant cette ville. Et au contraire, les images que tu en donnes sont des images très, très retenues, très, très pudiques. Ça, c'est une vraie volonté de ta part?
Oui, sans doute que je suis un peu comme ça. Donc, je pense que mes images sont le reflet de ce que je suis. J'arpente Istanbul, je crois que je peux le dire comme ça, depuis 10 ans. C'est une ville qui, au début, dont je suis tombée tout de suite amoureuse, mais qui au début m'a beaucoup intimidée à cause de cette vitalité, ce bouillonnement. Et puis petit à petit, je me la suis appropriée d'une manière, oui, que je crois qui me ressent, c'est-à-dire que j'y ai cherché une intimité, une poésie, voilà, une tranquillité. Par exemple, ce que je préfère à Istanbul, c'est pas le bouillonnement d'Istiklal le samedi soir à minuit, c'est la tranquillité des jardins de thé à l'abri des mosquées. Et voilà, c'est ça mon travail.
Quand tu dis que tu arpentes cette ville, tu l'arpentes dans tous ses quartiers. Est-ce qu'il y a des endroits privilégiés pour toi dans cette ville, des endroits un peu secrets, mais où tu aimes revenir au fil de tes voyages?
Oui, alors, moi, mon quartier préféré, c'est vraiment Eminönü. quand les touristes sont partis et au-delà de la voie ferrée, quand on descend vers la mer, où il reste encore quelques vrais petits quartiers, j'espère que ça va perdurer, où, comme je le dis, il y a encore des vrais gens qui y habitent, voilà, c'est pas des fausses maisons de bois pour les touristes, voilà, ces coins-là, la rive asiatique, bien sûr, qui, je trouve, j'allais dire authentique, enfin c'est pas le bon mot, mais pour moi rempli de charme et de poésie.
Alors, après 10 ans de voyage, d'arpentage de cette ville, évidemment tu n'es plus une touriste dans cette ville. Est-ce que tu te sens encore un peu Yabanje, étrangère, ou est-ce que tu te sens vraiment maintenant presque stambouliote? Tu as le passeport stambouliote maintenant, Catherine Izé?
Oh, j'aimerais bien ne plus y être touriste, mais malheureusement, je le resterai à moins de décider d'aller y vivre. Mais...
Et ça pourrait être le cas ?
J'y réfléchis, mais il faudrait un vrai projet. Enfin, voilà, je reste touriste. En même temps, je ne m'y sens absolument pas étrangère. Et comme je le dis dans mon livre, en introduction, Istanbul, je me sens vraiment chez moi, quoi.
Alors parlons un petit peu de ces images qui constituent cette exposition. Elles sont caractéristiques par leur forme, c'est du noir et blanc, les formats sont assez petits, donc requièrent du spectateur une relation d'intimité, oui, avec l'image, de s'approcher vraiment. Peut-être sur justement la manière dont tu pratiques ces images, comment est-ce que tu les fais ?
Alors c'est un peu compliqué et un peu contradictoire. C'est à la fois une manière de photographier rapide et lente. C'est-à-dire que je marche beaucoup, je prends mon temps, je tourne autour d'un sujet. Je peux ne pas appuyer sur le déclencheur et revenir 3 jours après au même endroit. Et puis je fais la photo ou je la fais pas. Et puis ça peut être des espèces de fulgurances comme ça. Je sais pas, il y a par exemple pas mal d'images qui sont un peu floues, mais c'est un flou complètement involontaire. C'est parce que je suis dans un bus ou dans un dolmouche et voilà, je vais pas ne pas faire la photo parce que ça bouge, quoi. Et donc ça, c'est extrêmement rapide. Mais sinon, oui, ma manière de fonctionner, c'est extrêmement lent et voilà, je marche lentement, je prends mon temps. Je suis pas quelqu'un qui, comme on dit en photographie, je shoote pas, quoi. C'est vraiment pas ma manière de travailler.
Avec Uzay, tout à l'heure, on parlait d'autoportrait. Je lui demandais si ça lui semblait possible de faire un portrait, en l'occurrence un portrait sonore d'Istanbul. Et est-ce qu'on peut dire que ces images, c'est une manière de faire un portrait d'Istanbul de ta part ?
J'espère, oui. J'espère que j'ai fait un portrait d'Istanbul, oui. Particulier. Hors des sentiers battus, peut-être déstabilisant pour les gens qui connaissent Istanbul, les grands sites touristiques, etc. Mais oui, j'espère que j'ai fait un portrait d'Istanbul. Oui.
Tout à l'heure, Jérémy parlait de ces quartiers de périphérie, ceux sur lesquels Tolki sévit. Est-ce que tu as, toi, envie de les visiter aussi ? Est-ce que c'est des choses dans lesquelles tu as envie de promener ton appareil photographique ?
Pas forcément, enfin j'ai pas du tout le même regard et le même point de vue sur cette ville, mais pourquoi pas effectivement un jour explorer ça, oui.
Alors Istanbul est une ville qui est hyper visible. Istanbul à facettes, hein, reflète la lumière tant qu'elle peut, elle se fait brillante parfois, mais en même temps c'est une ville c'est aussi une ville invisible, peut-être en référence à Italo Calvino, ces villes un peu folles, comme ça, poétiques en tout cas. Et est-ce qu'il te semble qu'il y a une part d'Istanbul qui est invisible ?
Je pense que pour les touristes, oui, c'est sûr. Oui, oui. Ils vont tous aux mêmes endroits. Voilà, une fois qu'ils ont visité Topkapı, Sultanahmet voilà. Et moi, c'est ça qui m'a plu, c'est... Justement, bon, la première fois que j'y suis allée, j'ai vu effectivement tous les grands monuments, les grands sites, etc. Et puis après, ce qui m'a plu, c'est de me perdre dans cette ville et d'aller chercher ce qui m'était invisible de ce que j'avais lu avant de partir, les guides, bon, comme tout le monde, etc. Et voilà, c'était de me perdre et d'essayer de trouver justement cette Istanbul cachée qu'on regarde pas assez finalement.
Mais elle est où, c'est qui cet Istanbul invisible, Görünmez Istanbul, c'est où, c'est quoi, c'est qui pour toi?
Ben c'est ça, c'est se perdre dans les, c'est sortir des grands axes, c'est se perdre dans les rues, c'est aller traîner à Fener et Balat, voilà, des choses comme ça, quoi.
Au bout de 10 ans de pérégrination dans cette ville, j'imagine que tu y as tissé de solides amitiés aussi.
J'en ai quelques-unes de très solides, oui. L'amitié turque n'est pas un vain mot.
Et ces amitiés te conduisent peut-être à avoir des projets aussi dans cette ville, à part, bien entendu, photographier cette ville et venir nous montrer ces images. Est-ce qu'il y a des projets qui se développent là-bas, pas seulement ici, mais là-bas aussi?
Mais pas pour le moment. Je vais d'abord digérer le livre et après je verrai.
Et après ce livre là qui est disponible, hein, je le rappelle, dans toutes les bonnes librairies, Istanbul, Carnet curieux de Catherine Izzo, il y a d'autres choses qui sont en ce moment en train de passer de l'invisible au visible, tout doucement.
Je sais pas, j'ai commencé toujours à propos de la Turquie. Donc j'ai commencé à voyager à l'intérieur de la Turquie, je commence à accumuler des matériaux sur l'Anatolie centrale, la mer Noire, donc peut-être qu'il en sortira quelque chose.
Alors on va conclure cette émission avec un morceau de musique que tu nous as apporté, Catherine, et je voudrais que tu nous le présentes.
Oui, alors c'est un CD que m'a offert une amie turque. Ça s'appelle les Turcs frères et l'album s'appelle Dohu Orient et voilà, on peut écouter. Alors c'est un groupe d'étudiants qui je trouve excellent, mais qui veulent pas devenir professionnels et qui chantent dans toutes les langues de Turquie, et c'est ça que je trouve formidable.
Tu nous rappelles leur nom?
Alors voilà, j'ai une Turque devant moi, donc je perds mon Turc. Kardeş Türküler.
Kardeş Türküler sur les 3-8.
geldi kırka çıktı. Girdim girdim geride öldüm. Dostlar bizi bıraktı. Yorgun yorgun lan bilmezdim. Baş geldi kırka çıktı. Girdim girdim geride öldüm. Dostlar bizi bıraktı. Darıldım darıldım ben sana canım, böyle olacaktı. Vurdum vurdum sana kan, yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım, böyle olacaktı? Vurdum vurdum bak sana kan, yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vurdum vurdum bak sana kan, yerde mi kalacaktı? Darıldım darıldım ben sana canım, böyle mi olacaktı? Vurdum vurdum bak sana kan, yerde mi kalacaktı?
On écoutait Kardeş Türküler, un extrait de l'album Doğru, une sélection musicale apportée par Catherine Izzo. Merci à Catherine pour sa participation à cette émission, ainsi que Johan Lamouler, Jérémy Garniaud, Uzay Ouzoun, Marius Rambeau, William Benedetto. J'espère n'avoir oublié personne. Si, j'ai oublié Sébastien Gély à la réalisation de cette émission, et puis Djilali Amish aussi à la radio pour en recevoir le flux. Merci à tous, restez à l'écoute de la grenouille, quelques instants de sélection musicale et prochain rendez-vous c'est à 19h. Vous pourrez écouter un concert de Senegal Mem Incansiz, un concert enregistré à Arcaouda, c'est à Kadikoy, c'était en octobre dernier. Restez à l'écoute.
Radyo yaptık, açık radyo yaptık, değil mi?
Evet. Sanat bir yerde görünmezi dışarıya çıkarmak için bir uğraştı.
Birdir Peygamber Hak, Rabbil Alemin İslam.
Tamam anne ben geldim.
Senlik benlik nedir bırak söyleyeyim, geldi sırası. Kürdü Türk'ü Neşerkezi, Vebademin yolu bizim.